France Inter. Les admirations littéraires de
Alain Mabankou. Avant d'entrer dans l'univers d'Alfred de Vigny, je voudrais partager un souvenir qui me tient à cœur. J'ai découvert Alfred de Vigny loin de la France. J'étais encore au Congo, dans la ville portuaire de Pointe-Noire. Devant le cinéma Rex, un des cinémas des quartiers populaires de ma ville natale, des vendeurs proposaient des livres posés à même le sol. On achetait des bandes dessinées, on achetait des romans policiers. Mais un jour, je suis tombé sur un petit recueil, sans couverture, sans titre. Je l'ai acheté presque par hasard. Et le soir, j'ai commencé à lire. J'ai retrouvé des vers graves qui parlaient de dignité, de silence de Dieu, de courage. J'étais fasciné parce que c'était ce que je recherchais pendant longtemps pour moi qui étais le fils unique, qui était presque nourri dans cette sorte de couardise. J'avais un poète qui me disait que la dignité existait encore et qu'il y avait de la vertu dans le silence. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait du recueil posthume d'Alfred de Vigny, Les Destinées. Pour moi donc, Vigny est lié à cette scène congolaise. Pour moi, Vigny est un Congolais qui s'est trompé peut-être de territoire, mais dont la poésie avait le choix de vivre n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle maison de mon quartier. C'était un livre trouvé dans la poussière, mais un livre qui est devenu pour moi une lumière intérieure. J'allais me renseigner, poursuivre mes recherches, rencontrer encore Alfred de Vigny dans le lagard des Michards, ce poète, ce romancier, ce dramaturge du XIXe siècle. J'avais constaté qu'il était contemporain de Victor Hugo, que nous aimions tous au Congo, et surtout de Lamartine et de Musset. Tout le monde parlait de Lamartine, tout le monde parlait de Victor Hugo, parce que le grand poète, le grand écrivain français avait presque touché tous les domaines de la littérature. Et Lamartine était pour nous le poète le plus facile, parce qu'il avait ses formules que nous gardions pour notre dulciné, parce qu'il y avait une certaine tristesse, un certain abandon de son âme qui correspondait à notre adolescence. Alfred de Musset, par contre, avec ses nuits de mai, des nuits ici et là, il était le poète de l'élégance. Il était bien fringué dans le lagard des Michards. Cette sorte d'habillement qui ne relève pas de ce que les Congolais appellent la sape, mais qui relève probablement du dandisme. Donc, lorsque nous voulions aborder une bien-aimée, nous passions par Lamartine. Au mieux, nous pouvions aussi passer par les contemplations de Victor Hugo. Nous récitions. Mais on ne pouvait pas imaginer, par exemple, que vous aviez une dulcinée et que vous alliez attirer ses grâces en lui récitant « La mort du loup » tirée des destinées. Ce n'était pas possible. « La mort du loup » d'Alfred de Vigny nous montrait le courage, la fascination de l'héroïsme, du stoïcisme, et puis aussi le désespoir de ces animaux qui s'apprêtaient à être abattus et dont la mère, la louve, faisait tout pour protéger ses enfants. Alors, dans la deuxième partie de « La mort du loup » d'Alfred de Vigny, il y a cette chute formidable qui est peut-être l'excellence même de sa poésie, parce que tout y est. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui les savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Ah, j'étais bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fait énergétiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. Pour nous autres, les enfants du Congo à cette époque-là, Alfred de Vigny, c'était la mort du loup, c'était ses poèmes. On ne pouvait pas lire ou réciter certes tout le poème, mais cette chute où le stoïcisme est là en face de nous était peut-être le moment crucial qui nous avait fait comprendre que dans la vie, il faut savoir garder ce calme et cette sérénité face aux problèmes qui sont en face de vous. Les destinées d'Alfred de Vigny était publié en 1864, après la mort même de Vigny, et ce recueil résonnait pour nous comme son testament poétique. Et les thèmes qui sont abordés dans les destinées d'Alfred de Vigny nous captaient, nous interpellaient. La question de la condition humaine et sa finitude, surtout ces silences de Dieu et la dignité dans l'épreuve. Nous étions tous des Alfred de Vigny et je suis sûr que dans notre génération, il y a des parents qui ont eu un enfant parce que je connais quelqu'un qui habite à Pointe-Noire et qui s'appelle Mbungu Alfred de Vigny. Tout simplement parce que son père avait été charmé comme moi par la mort du loup et par le recueil « Les destinées d'Alfred de Vigny ».
Pas revenu de l'ouest, il regarde la mer impassible. pas vide, qui d'un coup, d'un seul, se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse, il s'empare d'une la main invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant, mon troupeau. J'emmenais mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, y'aurait rien là-haut, pourrais-je emmener les poteaux. Il regarde la route de l'exil et se demande où vont les îles et les grands oiseaux indociles en forme de signaux de détresse. Il rêve des berges du Tibre, du Nil, humant la fumée d'une de Nil. Il reste au loin quelques collines allongées dans la brume épaisse. Avant ici avait des chenilles, des grands bourgeois d'une grande ville, le confluent, le pauvre et nu, et le jardin montre son cul. Le déclin était prévisible, l'humanité si peu sensible. Mais tant qu'il y aura des bistrots, je veux bien mourir maintenant, trop bon. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener mon bateau. Et puis au cas où, je dis bien au cas où, il y aurait rien là-haut, pourrais-je emmener les poteaux.
Les admirations littéraires d'Alain Mabankou. Sur France Inter.
La mort du loup n'était pas le seul poème qui nous attirait à cette époque-là dans les destinées d'Alfred de Vigny. Il y avait aussi ce poème que j'aimais lire assis juste devant notre parcelle, voyant passer les gens. Ce poème me retirait pratiquement du monde. Et il y avait une certaine douceur et la consolation de la nature. Ça me donnait une sérénité. Ça me permettait de me réfugier dans le tumulte, même si j'étais entouré d'une foule. Je relisais ou je pensais dans ma tête cette maison du berger d'Alfred de Vigny. La maison du berger. À Eva. Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, se traîne et se débat comme un aigle blessé, portant comme le mien sur son aile asservie tout un monde fatal, écrasant et glacé, s'il n'est bas qu'en saignant par sa plaie immortelle, s'il ne voit plus l'amour, son étoile fidèle, éclairer pour lui seul l'horizon, si ton âme enchaînée, ainsi qu'elle est mon âme, lasse de son boulet et de son pain amer, sur sa galère en deuil, laisse tomber la rame, penche sa tête pâle et pleure sur la mer, et cherchant dans les flots une route inconnue, y voit en frissonnant sur son épaule nue la lettre sociale écrite avec le fer. Si ton corps, frémissant de passions secrètes, s'indigne des regards timides et palpitants, s'il cherche à sa beauté de profonde retraite pour la mieux dérober aux profanes insultants, si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, si ton beau front rougit de passer dans les songes d'un impur inconnu qui te voit et t'entend, pars courageusement, laisse toutes les villes, ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin. Du haut de nos pensées, vois les cités serviles comme les rocs fatals de l'esclavage humain. Les grands bois et les champs sont de vastes asiles, libres comme la mer autour de sombres îles. Marche à travers les champs, une fleur à la main. La nature t'attend dans un silence austère. L'herbe élève à tes pieds son nuage de soir. Et le soupir d'adieu du soleil à la terre balance les beaux lys comme des encensoirs. La forêt a voilé ses colonnes profondes, la montagne se cache, et sur les pâles ondes, le saule a suspendu ses chastes reposoirs. La maison du berger d'Alfred de Vigny, tirée des Destinées, était proche de nous parce que ça parlait de la nature. Le poème évoquait cette végétation, même s'il fallait remplacer certaines espèces végétales européennes par des espèces tropicales, mais il y avait quelque chose de commun en nous. C'est le mystère de la forêt. C'est le mystère, peut-être même, du relief. L'homme, la femme, devraient partir, peut-être pour se rencontrer soi-même et penser à une autre existence plus noble et plus utile pour la communauté.
Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not stand there on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life.
I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy and not so alone. Look at me, here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's so wonderful, wonderful life. No need to laugh, oh. So wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
Les admirations littéraires d'Alain Mabankou.
Au fond, Alfred de Vigny était pour nous aussi un père qui nous parlait. On avait le sentiment qu'il nous donnait des conseils, qu'il avait un manuel de la vie pour les générations futures. Et dans ce sens, nous percevions Alfred de Vigny comme le symbole de l'espérance au-delà du temps. C'est peut-être même cet esprit qu'on retrouve dans son poème « La bouteille à la mer », toujours tiré des destinées. Un poème qui s'adresse directement à l'enfant, à sa faiblesse, mais aussi qui l'incite peut-être à commencer petit à petit à penser ce stoïcisme qui a traversé l'œuvre d'Alfred de Vigny. C'était le poète de la philosophie, c'était le poète de la théorie. Et il était rare de tomber sur des poètes qui, en même temps qu'ils étaient en train de créer, pensaient aussi leur domaine. Alfred de Vigny était celui-là, et ce poème, « La bouteille à la mer », le prouve à suffisance. La bouteille à la mer. Conseil à un jeune homme inconnu. Courage, ô faible enfant, de qui ma solitude reçoit ces chants plaintifs sans nom que vous jetez sous mes yeux ombragés du camail de l'étude. Oubliez les enfants par la mort arrêtée. Oubliez les Chatterton, Gilbert et Malfilâtre, de l'œuvre d'avenir saintement idolâtre. Enfin, oubliez l'homme en vous-même. Écoutez, quand un grand marin voit que le vent l'emporte et que les mâts brisés pendent tous sur le pont, que dans son grand duel la mer est la plus forte et que par des calculs l'esprit en vain répond, que le courant l'écrase et le roule en sa course, qu'il est sans gouvernail, et partant sans ressources, il se croise les bras dans un calme profond. Il voit les masses d'eau, les toises et les mesures, les méprises en sachant qu'il en est écrasé, soumet son âme au poids de la matière impure et se sent mort ainsi que son vaisseau rasé. À de certains moments, l'âme est sans résistance, mais le penseur s'isole et n'attend d'assistance que de la forte foi dont il est embrassé. Dans les heures du soir, le jeune capitaine a fait ce qu'il a pu pour le salut des siens. Nul vaisseau n'apparaît sur la vague lointaine. La nuit tombe et le brick court au roc indien. Il se résigne, il prie, il se recueille, il pense à celui qui soutient l'épaule et balance l'équateur hérissé des longs méridiens. Son sacrifice est fait, mais il faut que la terre recueille du travail le pieux monument. C'est le journal savant, le calcul solitaire, plus rare que la perle et que le diamant, c'est la carte des flots faite dans la tempête, la carte de l'écueil qui va briser sa tête au voyageur futur sublime testament. La philosophie d'Alfred de Vigny, dans La bouteille à la mer, montrait pour nous une autre voie qui peut-être complétait cette fascination pour la nature. Si vous êtes fasciné par la nature, par voie de conséquence, vous devez vous demander qui a créé la nature, d'où vient cette nature, quelle est cette force transcendantale qui fait que nous avons ces prodiges de la terre. C'est le sens, certainement, de cet autre poème que j'ai toujours admiré, aimé et récité d'Alfred de Vigny, « Le Mont des Oliviers », où on a une certaine mise en scène de la prière du Christ. On voit comment le silence de Dieu est peut-être l'héritage immatériel qu'il nous faut un jour accepter et peut-être aussi transmettre. Le Mont des Oliviers, ce poème, nous réconciliait aussi avec le Christ, puisque on y voit pratiquement des scènes qui sont proches de la Bible. On y voit des références qui sont là. On voit aussi l'Égypte, très chère à ma propre création. On voit, en quelque sorte, une sorte de cantique des cantiques, mais à la version d'Alfred de Vigny. Le Mont des Oliviers occupe une place fondamentale dans les destinées. Le Mont des Oliviers. Alors, il était nuit, et Jésus marchait seul, vêtu de blanc, ainsi qu'un mort de son linceul. Les disciples dormaient au pied de la colline. Parmi les oliviers, qu'un vent sinistre incline, Jésus marche à grands pas en frissonnant comme eux. Triste jusqu'à la mort, l'œil sombre et ténébreux, le front baissé, croisant les deux bras sur sa robe, comme un voleur de nuit cachant ce qu'il dérobe. Connaissant les rochers mieux qu'un sentier uni, il s'arrête en un lieu nommé Gethsémani. Il se courbe, à genoux, le front contre la terre, puis regarde le ciel en appelant « Mon Père ». Mais le ciel reste noir, et Dieu ne répond pas. Il s'élève étonné, marche encore à grands pas, froissant les oliviers qui tremblent. Froide et lente, découle de sa tête une sueur sanglante. Il recule, il descend, il crie avec effroi. « Ne pouvez-vous crier et veiller avec moi ?» Mais un sommeil de mort accable les apôtres. Pierre, à la voix du maître, est sourd comme les autres. Le Fils de l'homme alors remonte lentement. Comme un pasteur d'Égypte, il cherche au firmament si l'ange ne luit pas au fond de quelque étoile. Mais un nuage en deux s'étend comme le voile d'une veuve et ses plis entourent le désert. Jésus, se rappelant ce qu'il avait souffert depuis 33 ans, devint homme et la crainte serra son cœur mortel d'une invincible étreinte. Il eut froid. Vainement, il appela trois fois. « Mon Père !» Le vent seul répondit à sa voix. Je devrais rappeler quand même qu'en ce temps-là, nous lisions « Le Mont des Oliviers » d'Alfred de Vigny, tiré des Destinées, comme étant un texte aussi de catéchisme. Nous allions à l'église, nous avions entendu parler de Dieu, de Jésus, et là, nous étions en quelque sorte un peu tristes de constater que Jésus qui appelait le Père, et il y avait ce silence de Dieu. C'est ce même silence qui est la clé même d'Alfred de Vigny pour nous. Le silence dit beaucoup de choses, parce que nous complétons celui-ci en nous disant que ça pourrait aller mieux. Mais lorsqu'on n'a pas de réponse, comme dans « Le monde des oliviers » d'Alfred de Vigny, il faut garder cette foi. C'est pour cela que je dirais que Alfred de Vigny n'est pas seulement un poète du XIXe siècle, il est aussi le poète de notre époque, parce que sa voix résonne encore, parce que nous avons perdu le sens de la dignité, parce que nous sous-estimons la force intérieure, parce que nous sommes simplement préoccupés par ce qui se passe autour de nous et ce qu'on pense de nous. Nous avons perdu la foi en nous-mêmes, comme si nous étions infidèles à nous-mêmes pour le coup.
Les admirations littéraires d'Alain Mabankou sur France Inter.
Pour moi, Alfred de Vigny reste, c'est vrai, lié à la ville de Pointe-Noire. Pour moi, Alfred de Vigny est congolais. Je sais que les spécialistes vont un peu sourire, mais la poésie, c'est aussi ce lieu que tout le monde peut habiter, voire même revendiquer. La poésie, c'est aussi le hasard d'avoir trouvé les destinées d'Alfred de Vigny sans couverture, sans titre, devant le cinéma Rex, qui est un lieu très présent dans la plupart des romans que j'ai écrits jusqu'alors.
Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. C'est Loïs Moreau qui a effectué la prise de son. Cette émission a été mixée par Maxime Goudard. Thierry Dupin en est le programmateur et elle a été réalisée par Stéphane Ronxin. La semaine prochaine, c'est Denis Podalydès qui viendra nous lire « Corneille ».